scène littéraire dans la grande matinale avec Gabriel Barga sur Africa numéro 1.
Bienvenue à tous. La semaine dernière, on vous présentait son ouvrage il y a une quinzaine de jours et nous avons le bonheur de l'avoir sur ce plateau, sur le plateau de plus de la grande matinale. Je suis quelqu'un. Oui, c'est Aïdara Aminata qui est avec nous. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Ou je devrais dire Aminata Aïdara. Aïdara Aminata.
Aminata
c'est
Aïdara.
C'est l'auteur donc que vous nous présentez aujourd'hui, Gabriel Barga.
Tout à fait, Phil. C'est cet auteur que nous recevons pour la première édition de la nouvelle version de la scène littéraire. On pourrait dire sur les bords de la scène littéraire en direct d'Africa numéro 1 à Paris le mardi à 9h chaque semaine. Donc on se retrouvera pour non plus seulement présenter un livre, désormais aussi il y aura un auteur parmi nous. Et aujourd'hui nous avons la chance de recevoir notre chère Aminata Aïdara, qui est telle que je vous l'avais annoncé, Phil. Vous pouvez le voir et le constater.
Exactement, qui est très jeune. Comment justement...
Et surtout, très, 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 très bien sur ce plateau.
Exactement. Alors, comment vous est venue justement l'idée de vous lancer dans la littérature? Qu'est-ce qui vous amène dans cet univers?
J'ai toujours écrit. Quand j'étais petite, j'adorais lire et d'écrire des petits poèmes, ensuite des nouvelles. Et voilà, et donc... on va dire que j'ai toujours écrit depuis que je sais écrire. Voilà.
Et à quel moment on se décide d'en faire finalement une vocation? Parce qu'il y a un jour où on se dit, ok, j'écris des nouvelles, j'écris des poèmes pour la maison, pour les copines, pour papa, pour maman. Et puis un jour on dit, je veux écrire pour tout le monde et je vais présenter à une maison d'édition.
Oui, alors pendant mes études universitaires, j'écrivais des nouvelles, j'ai participé à des concours littéraires. Donc on a commencé à publier mes nouvelles dans des recueils collectifs italiens. Et tout doucement, disons que j'ai compris que certains personnages que j'avais juste amorcés pouvaient avoir une plus grande vie et que ces personnages me suivaient. Et donc j'ai décidé de leur donner toute l'ampleur qu'ils avaient dans ma tête et sur le papier. Donc c'est, en fait, la décision d'écrire un roman, de le proposer à une maison d'édition, c'est quelque chose qui n'est pas venu comme ça tout de suite. C'était un processus assez long. C'est-à-dire qu'avant, j'ai même écrit des nouvelles qui étaient comme des ébauches de romans, mais qui n'avaient pas la même puissance, qui n'avaient pas la même valeur de ce que ensuite j'ai décidé de proposer.
D'accord, on va parler un petit peu de vous,
oui.
Parce qu'il est bon que le public, non pas mettre un visage, on est à la radio, mais ait une idée un petit peu plus précise de qui vous êtes, votre parcours, etc. Vous avez donc 35 ans maintenant, même si Phil...
Presque.
Bientôt, au mois de mai, au printemps, même si Phil vous considère très jeune, le vieux Phil qui vous considère si jeune. Et voilà, vous avez des parents sénégalais et italiens. Vous êtes né à Turin,
À Brescia.
Vous êtes né en Italie. Vous y avez grandi jusqu'à ce que vous veniez suivre des études de troisième cycle en France. C'est à peu près ça.
Oui, oui, oui. Je suis né à Brescia, donc au nord de l'Italie. Et j'ai fait mes études à Turin, comme vous l'avez cité. Donc voilà, je suis arrivée en France à 26 ans. Mon père est sénégalais, ma mère italienne.
D'accord. Il vit toujours en Italie, votre papa?
Entre l'Italie, la France et le Sénégal, il a toujours beaucoup voyagé.
D'accord, et... famille de voyageurs.
Oui,
et
absolument.
Vous avez pris le relais.
Oui.
Et dans le voyage aussi. Il y a du voyage, beaucoup de voyages dans votre roman, avec tous ces personnages qui se croisent. Parce que les voyages sont aussi comme les identités, quelque part. Des gens qui vont d'un bout à l'autre, qui sont tout simplement mêlés, qui mêlent des lieux, de l'espace, du temps.
Oui.
Il y a beaucoup de personnages comme ça chez vous.
Oui.
Vous êtes nouvelle à Paris, finalement, mais Paris est très présent dans votre livre. Est-ce que c'est une ville avec laquelle vous avez entretenu un certain rapport? Parce que la précision presque microscopique comme ça, des lieux, des rues, des adresses, c'est très impressionnant dans votre livre.
Avant, en fait, je me suis approprié cette ville puisque c'était une ville pour moi d'adoption complètement. Donc le fait que je m'ancre dans certains quartiers, dans certains arrondissements, reflète aussi mon envie d'être de cette ville, de la sentir mienne. Après, c'est une ville assez difficile, je trouve, d'accès. Et donc même le fait que j'ai créé ces personnages et j'ai créé ce monde, voilà, dans mon roman Je suis quelqu'un, est dû à ma première sensation à Paris d'extrême solitude. Donc j'ai créé ces personnages, je me suis ancrée dans les lieux pour faire en sorte qu'ils m'accompagnent, qu'ils me tiennent de leur compagnie.
Pour revenir au livre, à son contenu, le livre dont on a parlé il y a maintenant deux semaines, on en a longuement parlé dans une chronique que vous pouvez retrouver en podcast sur notre site, sur votre page Facebook, et j'ai vu sur votre blog également.
Oui,
votre,
exactement. Oui.
Etc. On peut retrouver, mais on va faire un résumé pour ceux qui n'avaient pas écouté ça. Alors, le livre qui nous rassemble aujourd'hui s'intitule « Je suis quelqu'un ». Puis un bandeau en dessous, c'est de l'éditeur, c'est, ou c'est vous-même, comme vous ?
Il y avait la consigne d'écrire quelque chose sur le bandeau, et c'est moi qui ai proposé comme vous.
Ah oui, c'est, parce que c'est excellent. Justement, alors c'est un livre autour d'un secret de famille. On va faire court. Le secret d'un enfant qui est né d'une relation adulte terrine et qui va faire basculer toute une famille et faire peser sur cette famille un lourd secret. Et j'étais parti sur la thématique de « Je suis quelqu'un comme vous » parce qu'il y a le secret de famille que nous partageons tous. « Je suis quelqu'un comme vous » qui est en quête d'identité parce que nous tous, quelque part, on la cherche, même s'il y a des identités plus fixes, on va dire. Il y en a qui sont plus mouvantes, plus mobiles et qui ont besoin de s'exprimer. Mais vous êtes aussi quelqu'un qui s'exprime beaucoup parce qu'à ce moment... parle de votre sensibilité, mais vos idées nous intéressent également. Votre regard sur l'Afrique, sur le monde, parce que cette émission, c'est quand même une émission qui porte un prix littéraire, qui est celui de la scène littéraire, qui récompense donc des auteurs, que nous considérons originaux et percutants, qui apportent un regard un peu novateur sur l'actualité africaine. Je vais lire des choses qui sont sensibles, mais qui doivent sans doute aussi évoquer des choses plus profondes. C'est un extrait. « Je suis quelqu'un qui quitte Facebook ». Par un trop-plein de commotion. J'ai choisi de voir les conversations fragiles rebondir de bouche à oreille, face à face, mais de ne plus suivre leur recherche d'un sens sur la toile. Mes yeux picotent quand je vois à quel point nous sommes tous à la recherche de Dieu sur les réseaux sociaux, de Dieu ou de l'amour, avec nos grandes phrases, nos photos de bonheur ou de désespoir, nos provocations, nos attentes d'une approbation de la part de l'autre. Vous êtes la génération réseaux sociaux et vous avez ce rapport à ça?
Bon, alors après, c'est le personnage d'Estelle qui parle, mais effectivement...
Oui, oui. Oui. Oui,
mais effectivement, c'est une discussion que j'ai eue avec une amie par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux qui, effectivement, peut parfois être déstabilisante. Et voilà, il y a beaucoup de gens qui décident à un moment de quitter les réseaux, ensuite d'y retourner, ouais. Et qui décident de ne plus suivre certaines personnes.
C'est comme une drogue, des fois.
Oui, voilà, oui, c'est comme si on rate quelque chose quand on ne voit pas ce qui se passe. Ou bien on a besoin de déconnecter parce qu'il y a un trop-plein d'informations.
Et parfois, c'est comme un réflexe dès le matin, on veut savoir ce qui se passe à travers le monde.
Alors, il est drogué. Voilà.
moi, j'avais une question concernant votre arbre généalogique, je pense, que vous avez présenté de façon assez exceptionnelle, en commençant par. Panda, Ibrahim, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez fait justement pour classifier comme ça votre famille ? Parce que là, lorsque je regarde les noms, c'est le Sénégal.
Oui, alors c'est la famille des personnages que j'ai créés,
ouais.
Mais c'est effectivement la façon dont j'ai repris les prénoms typiques de, par exemple, de ma famille sénégalaise, c'est-à-dire que souvent on porte le nom de la grand-mère ou du grand-père. Mmh. Il y a des récurrences comme ça, et c'était quelque chose que j'ai reproduit aussi dans cet arbre généalogique, effectivement. Après, comme j'ai fait des études d'anthropologie, il me tenait à cœur de montrer comment la famille s'était créé, déployé.
Quel est votre rapport au Sénégal, justement ?
C'est un rapport très fort que j'entretiens et de loin et de près. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai passé mon été 2018 au Sénégal. J'y retourne régulièrement. Quand j'étais petite, j'y allais plus souvent. Et j'ai fait par exemple des recherches là-bas. À chaque fois que j'y vais, c'est pour voir ma famille, mais c'est aussi pour connaître des facettes de la société que peut-être m'avaient échappé avant ou que j'avais juste observé sans me poser plus de questions. Par exemple, cette année, j'ai mené une petite enquête sur les talibés à Dakar. Oui. C'était un sujet qui m'avait toujours travaillé dès mon enfance. Pourquoi ces enfants, c'était quoi leur vie et tout.
Les talibés qui sont les enfants de la rue, qui font de la mendicité,
oui.
Pour souvent les madrassas, comme on appelle sous d'autres cieux. des maisons où ils apprennent la prière, etc., chez les marabouts.
Oui, voilà.
Et le phénomène est très fort, c'est vrai, dans certains
pays. Très fort. J'ai décidé de ne pas aller visiter les Dara, mais plutôt de me concentrer sur un quartier, en particulier point E, et voir comment ils vivaient le quartier, quel était leur quotidien. Et j'ai aussi visité la maison des enfants. L'Empire des enfants, ça s'appelle. C'est une association qui aide les enfants à sortir de cette situation, voilà, s'ils le veulent. Voilà. Et ça m'intéressait donc de prendre le point de vue de qui veut en sortir plutôt de...
Qu'est-ce que vous aimeriez, si vous aviez l'occasion, partager du Sénégal avec le monde?
Disons que je voudrais partager la solidarité que j'ai pu trouver là-bas et le fait que le côté humain des situations est très 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 souvent mis au premier plan, le sens aussi de la fête et le sens de la solidarité. Par exemple, cet été, voilà, s'il y avait des situations de décès de personnes, le rassemblement énorme, le fait d'être toujours entouré de personnes et de vivre les choses en les partageant, alors que ici par exemple c'est quelque chose qu'il faudrait plutôt apprendre en Occident, à partager la joie et la douleur aussi. Il y a un peu le sens du partage qui...
De l'hospitalité aussi, la fameuse teranga, c'est une vraie réalité.
Oui, c'est une vraie réalité, ouais. Moi je trouve. Ouais.
Oui, c'est un beau pays.
J'ai toujours très raison.
J'aime beaucoup le Just For You à Dakar, je fais un coucou d'ailleurs. Un super cabaret où on danse très bien, où j'ai fait mes premiers pas de
mala. Oui, j'ai été là-bas.
Ah oui, c'est super sympa, il y a de bons danseurs. Hein.
Je suis quelqu'un, c'est donc le titre du roman que nous présente Aminata Aïdara, un roman que nous avons présenté il y a une quinzaine de jours maintenant, Gabriel Barga. Alors, j'imagine que c'est un roman traduit en plusieurs langues.
Pour l'instant, non. Il existe qu'en français, mais j'aimerais bien le traduire en italien.
Alors, pour sortir du roman, j'aimerais savoir quelle est la place ou la vision des Italiens par rapport à la littérature africaine. Est-ce qu'on s'y intéresse?
Alors, il y a des livres, des grands classiques qui ont été traduits en Italie. Donc, on y avait accès quand on était à l'école. Après, ils ne sont pas du tout... diffusés, ils sont pas célébrés. J'ai pas trouvé une grande place pour la littérature africaine. Ceci dit, on peut l'étudier à l'université.
Inexistante même dans les rayons?
Non, elle existe. D'accord. Elle existe de plus en plus. Alors moi, je parle de l'époque où j'y vivais, donc il y a presque une dizaine d'années, on va dire. C'était pas comme maintenant. Maintenant, elle est plus diffusée. Ouais.
D'accord.
Mais
l'Afrique et l'Italie, il y a la question migratoire. Il y a un gouvernement en Italie en ce moment qui est considéré comme à la droite de la droite et qui, dans le même temps, sur un plan médiatique, a fait des déclarations qui ont enflammé beaucoup d'Africains, qui ont trouvé ça très intéressant que les Italiens, dans leur querelle avec leurs cousins français et autres, indexent la France d'être ci ou ça. Vous, qui êtes métisse de cette Afrique et de cette Italie-là, l'Italie, c'est quoi aujourd'hui dans sa réalité quand on est africain?
Eh bien, c'est un pays très dur, socialement parlant, parce que voilà, il y a beaucoup de stigmatisation, énormément d'exclusion, et c'est pour ça que voilà, c'est hallucinant que l'Italie ait juste son mot à dire sur n'importe quoi concernant. Après, que les choses dites soient légitimes par rapport.
Même exact.
Pardon?
Ou même exact, ou même vrai.
Oui, voilà, ça n'enlève rien à la voix dont... à qui porte la voix, je veux dire. C'est un pays absolument inhospital. Par contre, il faut aussi rendre mérite aux maires de certaines villes du sud de l'Italie, de la Sicile. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement citoyen quand même de soutien, mais qui n'est pas... qui ne représente pas l'entièreté de la population.
Alors, je vous propose de souffler un peu en musique. Hein. On va revenir avec
je vais danser,
tout à l'heure. Alors, vous avez choisi Gaël Faye et Flavia Coelho,
oui.
Balade brésilienne. Pourquoi?
Parce que j'adore cette musique. Gaël Faye, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément.
Ouais.
Et j'ai envie de danser un peu.
La tête tourne en derviche. L'alcool assèche, un goût âpre en bouche. Ma langue une lame dans une poche rêche. Le parquet craque sous nos semelles usées de gosses de riches. On fume sur la corniche, dedans la musique recouvre les causeries. L'amour criche, on s'en contente, les nuits sont fraîches. Demain on dort, dimanche au temple, le pasteur ne fera que de faux prêches. On a la vie devant nous pour user nos cartouches. Dehors la ville est belle comme si j'étais un bateau mouche. Degré dans le rouge, des couples copulent sur la lune. Copine, c'est la luce, 15 ans d'âge transforme tes yeux en lagune. Embouteillage de filles devant les toilettes. Merde, j'ai confondu les noyaux d'olive avec les cacahuètes. On danse nos solitudes sur des rythmes binaires. Tous par terre, le cerveau dans la brume, y'a de l'humour dans l'air. Dans ces instants, bref, c'est le temps qu'on déjoue. Donc dis-moi à quoi on joue avant les lueurs du jour.
Que a situação aqui tá difícil. Faltando poesia, homem nenhum querendo compromisso. Pra trocar uma ideia, na moral é um suplício. O cara que fala em poesia estava esperando por isso. Na pista a gente dança, a temperatura é perfeita. É cedo, é meia-noite, é lua cheia. O seu perfume é da Gino de Paris. Você torce pro PSG. Aí o que falta pra tu ser feliz? Sol, vento na cara, chope gelada, biquíni, sandália. Mais uma noite no Brasil. Vamos a pé, caminhar na praia, e cair na gandaia, nas ondas do amor.
Allonger la tête dans les nuages, la nuit est bleutée. Lève les yeux là-haut, le ciel est à notre portée. Est-ce un drone, une étoile, oh, peu importe, fais un vœu. Le cadran essoufflé affiche une heure de couvre-feu. Cachaça, sucre canne, glaçon pilé. Mon petit cœur est un citron dans un mortier. Le ciel est clairsemé comme la piste de danse. Où sont passés les temps sereins, ont rien de porté à conséquence. Un fragment de volupté, un parfum, une archive, une fragrance d'été.
Mon petit cœur est comme un citron dans un mortier. On voit bien que c'est des envolées lyriques comme ça qui fait toujours plaisir. En tout cas, il était en concert à l'Olympia il y a quelques semaines encore. Gaël Faye que nous saluons. Au passage, je suis quelqu'un. C'est donc le roman que vient nous présenter Aminata Aïdara. Vous en comptez combien aujourd'hui?
J'ai gagné un prix en Italie. En 2014, mon premier recueil de nouvelles est sorti. Donc, il s'appelle La ragazza dal cuore di carta, c'est-à-dire la jeune au cœur de papier, la jeune fille au cœur de papier. Et voilà. Et donc, j'ai édité plusieurs nouvelles. Et ça, c'est mon premier roman, par contre.
Gabriel Marga.
Oui, les livres, parfois, je préfère les lire plutôt qu'en parler, parce que quand c'est aussi délicieux que la dernière phrase que vous avez dite, c'était quoi déjà? Rappelez-nous votre phrase.
Je suis comme un citron dans un mortier.
Oh là là, Phil, bon, moi je continue en lisant. Je veux que tu m'imagines comme une femme insensible. J'adore ce passage et je le relis. Je veux que tu m'imagines comme une femme insensible, concentrée exclusivement sur ses petits objectifs familiaux. Une personne qui n'a pas voulu te comprendre et qui, malgré sa volonté, n'est pas allée au-delà de ses propres limites. Je veux que tu me considères comme une personne égoïste, au regard tourné seulement vers ses propres sentiments. Quelqu'un qui, en se protégeant, blesse continuellement les autres. Je veux que tu me regardes comme on regarde une enfant qui, malgré le temps et la volonté de changement, est restée la même. Et je me demande, qui reconnaîtra comme moi l'opacité soudaine qui investit ton regard vert quand tu te fâches? Qui comprendra que le rapport à ta famille est parsemé de culpabilité que ponctuellement tu cherches à expier? Oh, Eric, j'ai tout aimé chez toi. Ta manière drôle de me photographier, l'odeur de transpiration qui parfois ressortait de tes débardeurs, tes rires silencieux mais pleins de mimiques faciales, ta bouche en forme de cœur qui trahissait une douceur tout de suite démentie par tes sourcils orageux. Qui saura, comme je le sais, l'amour et l'adoration que tu as pour toi-même, Phil.
C'est pas faux, mais comment nous décrire tout cela? On est dans de l'amour intense. Est-ce que c'est du vécu, Aminata Aïdara?
C'est une bonne question. Bah forcément, beaucoup de choses qu'on donne à ces personnages, on l'a déjà reçu, on l'a déjà vécu. Donc voilà, oui.
Ah bah oui, mais justement, parce que tous les écrivains ont des sources d'inspiration, et évidemment, vous en doutez bien, au vu de l'Agora qui est en face de vous ici, que c'est l'Afrique qui nous intéresse principalement.
Oui.
Vos influences africaines seraient lesquelles, par exemple ?
Alors, il faut dire que mes influences africaines sont arrivées tard par rapport à ma connaissance et mon approche à la littérature. Donc, on va dire que au début, je me suis intéressée aux écrits de Tahar Ben Jaloun, de Ousmane Sembène, Calix Beyala. Ensuite, j'ai découvert voilà, les écrits de Boualem Sansal, de Fatou Diom. Fatou Diom, disons que ça a été vraiment une, pour moi une révélation parce que j'ai vu écrit des choses que j'avais déjà pensé ou que j'aurais voulu exprimer moi-même. Donc je me suis sentie très en empathie avec ses romans et les écrits que j'ai lu. D'ailleurs, son premier roman, je l'ai lu en italien. J'étais encore en Italie, Le ventre de l'Atlantique. Et par la suite, on va dire qu'aujourd'hui, comme auteur africain, j'aime beaucoup Léonore Amiano.
Oui, oui.
Voilà. Donc, j'aime beaucoup Ken Bougoul.
C'est de très belles références.
Voilà, c'est très, très souvent, j'essaye de lire des femmes, il faut le dire. Donc, Maryse Condé. Enfin, j'essaye vraiment de voir, je m'intéresse plus souvent à la littérature féminine. Enfin, ça n'existe pas.
Qu'est-ce qu'elle
pas,
vous a apporté, la littérature africaine, à vous-même, comme personne et comme auteur ? Ça vous a apporté quoi ? Au-delà de la reconnexion ?
La littérature africaine.
Hein. Tous les auteurs, tous ceux que vous avez cités là, ils vous ont apporté quoi comme bagage pour vous ?
Bah, pour moi, c'était très important quand j'étais jeune et surtout voilà, en grandissant, de voir qui étaient les auteurs africains, quelle avait été leur vie, comment ils avaient été reçus, les luttes qu'ils avaient menées. Parce que c'était très important, parce qu'il faut savoir que je viens d'un univers quand même assez particulier où les romans qui pouvaient exister pour la jeunesse et l'enfance, l'image des personnes noires ou d'origine africaine était assez dévalorisée. Donc pour moi, c'était important de voir qu'il y avait des écrivains.
Ça vous a apporté de la fierté ?
Oui, oui, oui.
Une identité aussi, oui, vous étiez fière de voir cette écriture-là.
Oui, absolument, et du fait qu'on se réapproprie la parole. C'est très important de n'être pas seulement toujours objet de, soit d'études, soit de d'idées, que d'être les sujets de ces idées, d'être les sujets qui se nomment, qui parlent d'eux-mêmes et du monde aussi. Voilà, avoir une vision autre.
À propos justement de sujets, vous avez mené par rapport à votre thèse, ça aboutit à un recueil de nouvelles, c'est bien ça ce que j'ai sous mes yeux ?
Oui.
Exister à bout de plume, c'était quoi ?
C'était, au début, c'était un concours littéraire. Ensuite, c'est devenu un recueil de nouvelles et c'était aussi le sujet de ma thèse.
Oui, mais c'était quoi l'objectif ?
Alors, l'objectif, c'était de montrer comment, en constituant une petite communauté de jeunes qui aspiraient à, et qui aspirent ou qui le sont déjà des écrivains, on pouvait montrer comment la littérature était un troisième espace d'expression de liberté entre la famille et la société, où on pouvait vraiment se recréer une identité, dire tout ce qu'on peut-être on n'arrivait pas à dire dans la vie de tous les jours, ou trouver un lieu de négociation des différentes identités qui nous composent et où on empruntait aux personnages voilà, des comportements, des phrases, des vérités qu'on avait du mal peut-être soit à percevoir dans le monde, soit à vivre pleinement.
Vous êtes un écrivain engagé ?
Je pense oui.
Aminata,
pour la liberté surtout.
Aminata Haïdara, question peut-être profane. Comment s'effectuent vos travaux lorsque vous décidez de pouvoir entamer une thématique et combien de temps cela prend en général ? Est-ce qu'on peut rester sur un roman pendant 6 mois ou pendant une année ? Comment ça se passe ?
Oui, oui, on peut y rester beaucoup de temps et aussi avoir des illuminations, des moments d'inspiration qui peuvent durer quelques jours.
Ça
et
vient
alors,
comment ? En dormant, en rêve, on imagine des actions. Comment ça se passe ?
Moi, j'écris souvent dans les interstices de la journée, dans les temps morts, entre guillemets. Pour l'instant, je n'ai pas encore eu, mais là, je l'aurai bientôt parce que j'ai une résidence d'écriture, le temps vraiment de me poser et de passer le temps qu'à écrire. J'ai toujours volé, arraché le temps pour écrire et c'était des grandes satisfactions. J'écris partout, dans les trains, dans le métro, voilà, dans les transports, dans les bars aussi. J'aime beaucoup écrire dans les bars.
Écrire dans les bars.
Oui, mais je m'adapte à la vie parisienne. Je vois que les gens écrivent dans les bars.
Quels sont vos retours du Sénégal, des lecteurs du Sénégal, de ce livre?
Alors, j'en ai eu pour l'instant, j'en ai eu un tout petit peu. Et j'ai eu des bons retours. Oui, j'ai eu de bons retours, surtout par des personnes qui étaient agréablement surprises que je connaisse cette réalité, certaines réalités, tout en n'étant pas là-bas ou en n'ayant pas grandi au Sénégal, même si j'y allais tout le temps.
Et le prix du livre, ça reste un problème. Entre le prix d'ici et le prix de là-bas, s'il n'y a pas de réédition ou de maison d'édition qui adapte sur place, c'est compliqué.
Alors, je crois avoir compris par ma maison d'édition que c'est un prix... c'est pas le même prix.
C'est pas le même
prix. Non, c'est pas le même prix. Mais je ne saurais pas dire exactement.
Oui, mais ça reste quand même pour certains.
C'est-à-dire oui, c'est vrai que l'accès, l'accès n'est pas évident pour tous. Et...
Vous avez des projets pour le Sénégal? Vous partez pour le Cameroun la semaine prochaine? Pour quel projet?
Oui, en février, je vais partir au Cameroun. Je vais présenter donc mon livre à la MAM Gallery. J'ai été invitée pour parler de Je suis quelqu'un et j'espère pouvoir retourner au Sénégal bientôt. Je verrai, mais c'est...
Est-ce que vous savez mieux qui vous êtes depuis que vous avez écrit ce livre? Vous êtes qui?
Oh là là,
je suis quelqu'un, c'est le titre du roman.
Voilà, je suis quelqu'un, une personne comme vous.
Voilà, c'est sur cette note d'humour que va s'achever notamment cette présentation d'Aminata Aïdara qui sera donc bientôt au Cameroun pour se quitter. Elle a choisi dans sa playlist, elle a mis une pièce dans le jukebox, Stevie Wonder, pourquoi?
Parce que c'est quelqu'un que j'écoute tout le temps et qui me fait...
Qui vous inspire?
Oui, j'adore sa musique et ça me donne de l'énergie en fait.
Gabriel Barga, pour conclure?
Pour conclure, je suis quelqu'un, Phil.
Ouais.
Oui, je suis quelqu'un, moi aussi.
Quelqu'un de bien.
Ah, j'espère bien. Merci.
Merci.
Aminata Aïdara, merci d'être venue.
Merci à vous. I'm